Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et nous sommes en compagnie de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de la recherche et de l'enseignement supérieur, rejointe par deux chercheurs, Fabien Escalona, bonjour. Vous êtes politologue et enseignant à l'Institut d'études politiques de Grenoble, et Julien Longhi, bonjour. Vous êtes maître de conférence en sciences du langage à l'université de Cergy-Pontoise. Une dernière question du service politique de La Croix au sujet de l'école, Céline Rouden.
Oui, puisqu'on parlait de la difficulté de l'action politique, il y a un problème lancinant à l'école, c'est le non-remplacement des profs, qui est quand même le problème numéro un des familles. Alors, vous répétez que vous avez créé plus de 2000 postes supplémentaires de remplaçants depuis 2013, mais sur le terrain, les familles ne voient pas le changement. Alors, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il n'y a pas finalement une crise d'efficacité de l'action publique aujourd'hui?
Alors d'abord, sur le terrain, les familles ne voient pas le changement. Ça dépend où. Quand même, vous m'accorderez que les situations se sont largement améliorées globalement à peu près partout, sauf dans des points névralgiques. Oui, mais il faut le dire. Dans des points névralgiques que sont notamment la Seine-Saint-Denis, plus peut-être un ou deux départements autres. Pourquoi est-ce que c'est si difficile ? Oui. Pourquoi est-ce que c'est si difficile dans ces points névralgiques ? Parce qu'on est dans des territoires qui cumulent les difficultés, qui cumulent à la fois une démographie à la hausse, à la fois une faible attractivité de ces territoires pour les enseignants, des difficultés sociales nombreuses et variées qui font que les enseignants cherchent aussi à en partir au bout d'un moment. Et donc on a plus de mal, en effet, à avoir un vivier à la fois de candidats pour les concours et donc de titulaires enseignants et de remplaçants. Pour autant, est-ce que la situation s'est améliorée depuis 2012, 2013, 2014 ? Oui, indéniablement. Indéniablement, je veux dire, ça continue à être difficile, mais par exemple, les tensions de remplacement, elles se présentent aujourd'hui au mois de février de l'année scolaire. Je vous rappelle qu'il y a 3 ans, les tensions de remplacement, on les ressentait dès le mois d'octobre. Donc ça veut bien dire qu'on améliore progressivement la situation. Il faut faire mieux. Est-ce que c'est suffisant ? Non, il faut aller plus loin. Mais pour aller plus loin, eh bien, il faut à la fois continuer à créer des postes. Donc faites toujours très attention à tous les candidats qui, à contrario, vous promettent de couper les moyens de l'éducation nationale. Et puis, il faut adopter aussi des mesures qui permettent de fluidifier le système. Ce n'est pas qu'une question quantitative. C'est ce que nous sommes en train de faire pour la rentrée prochaine. De façon qualitative, permettre plus facilement de recourir à des remplaçants d'autres circonscriptions lorsqu'on a du mal à pourvoir la sienne, etc. C'est ce que nous sommes en train de faire.
Najat Vallaud-Belkacem, nous sommes en direct depuis La Croix, le journal La Croix, qui titre sur un sondage exclusif « Les Français aiment la politique », nous dit ce sondage Via Voice. 60% des Français disent s'intéresser à la politique et cependant, ils sont insatisfaits de la politique telle qu'elle se mène. Concrètement, comment expliquez-vous, selon vous, ce hiatus ? Comment expliquer le fait que les Français ne souhaitent pas se détourner de la politique, mais enfin la manière dont celle-ci est menée ne les satisfait pas?
Mais je pense que M. Goubert, à l'instant, dans sa chronique, avait raison. Enfin, les choses étaient assez bien présentées entre à la fois ce manque d'articulation parfois entre ce qu'il a appelé le niveau horizontal et le niveau vertical. Donc c'est sûr que, c'est ce que je disais tout à l'heure, la politique doit aussi se repenser. En tout cas, les responsables publics doivent repenser leur mode de fonctionnement pour mieux prendre en compte, par exemple, l'expression assez large des opinions avant d'adopter des mesures ou des lois. Mais aussi, ce que j'ai noté de son propos, c'était la nécessité aussi de désarmer les méfiances. C'est vrai qu'il y a quand même un discours qui est en vogue en ce moment de rejet total de ce que sont les responsables politiques, qui nuit à la politique elle-même et qui nuit, je trouve, à l'état d'esprit du pays et au pays. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même bien qu'il y ait des gens qui s'engagent en politique pour faire bouger toutes les lignes qu'on voudra, que ce soit les lignes des mesures politiques et des politiques publiques à adopter ou que ce soit les lignes de plus de transparence, moins de cumul des mandats, plus de parité. Bref, une politique qui nous satisfasse plus. Encore faut-il des gens qui s'engagent au sein des partis pour le faire.
Est-ce que vous regrettez parfois de vous être engagé en politique quand on voit les polémiques, quand on voit la dureté, l'agressivité? Certains politiques se plaignent également des réseaux sociaux et de la dimension supplémentaire de violence que ceux-ci ont suscité. Votre réaction, Najat Vallaud?
Je pense en effet qu'on traverse une ère qui n'est pas agréable du tout pour les responsables politiques. Elle ne l'est sans doute pas non plus pour les Français, hein, on en parlera. Mais pour les responsables politiques, ce n'est pas agréable aujourd'hui, honnêtement, hein, de faire de la politique. Alors il faut avoir des convictions chevillées au corps pour continuer à en faire et ne pas se laisser dévier. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment... à la fois d'avoir une série de contraintes, parce que bien sûr, quand on est un responsable politique, on ne prend pas des mesures dans l'absolu, on est contraint par des réglementations, par la nécessité, enfin par des nécessités diverses et variées, budgétaires par exemple, etc. Et en même temps, d'une certaine façon, des gens qui portent des jugements sur l'action politique, qui ne maîtrisent pas ces contraintes. Et je vois bien, hein, dans les nouveautés qui sont émises sur comment pourrait-on fonctionner autrement, je vois passer des choses du style « faudrait que chacun puisse donner son avis sur tous les projets, toutes les mesures, etc. » Mais c'est pas comme ça qu'on avancera, on en est tous bien conscients. Donc j'ai l'impression qu'on est dans un entre-deux où il faut en effet se remettre peut-être autour d'une table et repenser collectivement, peut-être même passer par un référendum, j'en sais rien, mais nos modes de gouvernance, oui.
Benoît Bouscarel.
Et peut-être effectivement aussi la façon de faire de la politique individuellement. C'est une fatalité ce que vous décrivez? Vous êtes victime de ce désamour, de cette défiance? Ou alors vous avez peut-être aussi des choses à changer? Chaque homme et chaque femme politique, chaque responsable.
Alors, je ne m'exprimais pas à titre personnel. Hein. Je n'ai pas le sentiment de vivre plus de désamour que les autres. C'est simplement un constat sur l'ensemble de la classe politique, du personnel politique, qui, en effet, quand vous interrogez les gens dans les sondages, que vous leur demandez quel responsable, quel corps de métier pour lequel ils ont le moins de confiance, les politiques apparaissent, je crois, parmi les premiers. Enfin, entre parenthèses, je crois que les journalistes les suivent, mais... Mais enfin, c'est quand même problématique. C'est bien sûr que quand on se rappelle ce qu'est la politique, c'est-à-dire d'abord un engagement au service d'un intérêt commun et pas de son intérêt propre, on se dit qu'il y a un problème. Alors évidemment, il y a des politiques qui l'ont bien cherché, hein, mais on est dans l'amalgame le plus complet.
Nous sommes en compagnie de deux jeunes chercheurs, Najat Vallaud-Belkacem, Fabien Escalona et Julien Longhi. Une réaction, peut-être d'abord Julien Longhi.
Oui, alors je rejoins effectivement Madame la ministre sur ce qu'elle disait tout à l'heure à propos notamment de la complexité, je pense, des sujets politiques et ce rapport entre le surplus d'informations finalement qu'on peut avoir et en même temps le défaut d'informations dont on peut bénéficier. Et notamment, les réseaux sociaux sont à la fois une source d'information ou de réinformation assez précieuse, mais paradoxalement, enfin, en tout cas, les travaux que j'ai pu faire m'incitent à penser ça, c'est qu'il y a une sorte de condensation ou de cristallisation du débat ou des idées, quoi. Il y a quelques années, on parlait des petites phrases en politique, et maintenant, j'ai l'impression qu'on est plus même au niveau du hashtag, quoi. C'est-à-dire que une bonne idée, voilà, En Marche, etc. Enfin, ça vaut pour tous les camps politiques. Alors même que finalement, un retour au texte montre que finalement ce dont on parle n'est pas vraiment l'image qu'on en a sur ces réseaux. Et bon, la réforme du collège, par exemple, c'est un bon exemple. Je ne dis pas que je suis ni pour ni contre, mais j'ai fait un travail un peu comparatif justement du texte de la réforme et de la manière dont ce texte a été reçu par les spécialistes, par les médias, par les politiques. Et j'étais très, très étonné, en fait, en lisant vraiment la circulaire, de lire ce qu'il y avait dedans par rapport à l'image qui était véhiculée sur d'autres types de...
Vous êtes ni pour ni contre, mais pour...
C'est pas mon objet
de noircir la circulaire ou au contraire
pas du tout. En fait, mon objectif, c'est de voir finalement comment le sens d'un texte naît et comment il circule. Et on voit qu'il est repris et qu'il y a vraiment des enjeux argumentatifs derrière, quelles que soient les positions qu'on peut avoir. Et que c'est important, en tout cas pour les Français, je termine, voilà, qu'on puisse avoir ce retour au texte source et que permet justement le web, les réseaux sociaux, par exemple.
Najat Vallaud-Belkacem, est-ce que pour vous, Internet a permis une meilleure information, donc une meilleure communication de ce que vous voulez faire, vous, les politiques, ou bien au contraire, est-ce que ça nuit à ce lien que vous pourriez tisser avec les citoyens?
Non, mais c'est une bonne question. À ce stade, je crains qu'on soit plus dans le négatif que dans le positif. À ce stade. Mais je pense que c'est un apprentissage, en fait. Mais c'est un apprentissage collectif. Vous savez, pour nos élèves, on introduit de plus en plus dans les programmes scolaires de l'éducation aux médias et à l'information pour faire en sorte qu'ils tirent le meilleur et qu'ils laissent de côté le pire d'Internet. Ben, je pense que cet apprentissage, en vérité, on devrait tous l'avoir, les adultes aussi, les observateurs, les internautes. Parce qu'à ce stade, j'ai envie de vous dire que, en effet, le mode de fonctionnement des réseaux sociaux fait qu'en réalité, notre message est plus souvent brouillé qu'explicité par ce mode de communication.
Et justement, nous sommes en compagnie d'un jeune chercheur en sciences du langage à l'université de Cergy-Pontoise. C'est important, le langage en politique. Julien Longhi, votre réaction à la... Fabien Escalona, qui est enseignant à l'Institut d'études politiques de Grenoble, votre réaction à ce qu'a dit la ministre ?
Moi, ce que, parmi la discussion que vous avez eue, ce à quoi j'ai pensé, c'est qu'effectivement, les politiques en général font l'objet d'une certaine désaffection. Et en même temps, il y a certains partis, certaines formations dont on parle beaucoup, que ce soit à la gauche radicale ou à la droite radicale d'ailleurs, qui, elles, sont des fois dans des dynamiques militantes, qui, elles, attirent aussi les gens aux urnes, y compris des gens qui n'allaient plus voter ou qui n'avaient jamais voté. Et pourquoi elles le font ? Parce qu'elles prennent en charge en fait des objets, des enjeux qui ne sont pas portés ou pas portés de manière satisfaisante aux yeux de l'électorat par les grands partis traditionnels. Et donc, si vous voulez, cette espèce de désaffection du politique, elle vient aussi du manque peut-être de compétitivité aussi de l'espace politique. On observe souvent d'ailleurs dans les élections, pour comprendre les différences de taux de participation, que les élections qui mobilisent les gens, c'est là où il y a des vrais enjeux et des vrais conflits. Voilà. Mais après, si vous voulez, de façon plus générale, si on essaye de théoriser un peu, au fond, on est dans des sociétés, on vit dans des États, on vit dans des économies à dominante capitaliste, et donc par définition, on vit dans des sociétés où le pouvoir est séparé du reste de la société, et où vous avez une sorte de séparation formelle entre le politique et l'économique. Et en fait, ça continue, c'est-à-dire que depuis une trentaine d'années, vous avez plutôt une dégradation du circuit représentatif entre gouvernants et gouvernés, vous avez une réduction relative, mais qui se mesure dans plusieurs domaines de l'État social, et donc forcément, ça crée des réactions, et c'est pour ça que, par exemple, vous avez cité les gens de Nuit Debout tout à l'heure, c'est pour ça que ces gens-là remettent en cause les formes instituées de la démocratie, c'est pour ça qu'ils portent toute une série de revendications, on va dire, anticapitalistes pour aller vite, mais ça, si vous voulez, ça répond aussi à un processus qu'on vit depuis une trentaine d'années, qu'on retrouve dans les enquêtes que vous publiez aujourd'hui.
Un processus qui peut contribuer, Najat Vallaud-Belkacem, à donner l'impression aux Français que la démocratie est confisquée, limitée, encadrée. L'utilisation, par exemple, du 49-3, est-ce que ça ne contribue pas à donner ce sentiment-là aux Français ?
Je trouve que l'exemple du 49-3 est typique de ce dont on est en train de parler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'information qui passe par le tamis d'Internet, des réseaux sociaux, donc du grossissement, de la caricature, etc., n'est plus de l'information. Par exemple, là, on finit par être convaincu que c'est un coup de force, quasiment quelque chose qui relèverait de la dictature, que d'avoir utilisé le 49-3. Le 49-3 est un article de la Constitution française qui permet une bonne gouvernance. À un moment donné, lorsqu'on constate qu'il y a un blocage au Parlement, le gouvernement est autorisé à utiliser le 49-3, et qui plus est, avec évidemment un garde-fou, puisque ce qu'il y a en face du 49-3, c'est la possibilité pour les groupes de déposer une motion de censure qui peut être soit acceptée, soit rejetée. Donc il y a des règles du jeu qui sont parfaitement claires et établies. Et donc le gouvernement a adopté ce 49-3 pour ce texte. Pourquoi ne dit-on pas suffisamment que d'autres gouvernements par le passé l'ont fait des centaines de fois ? Bon, voilà, c'était d'autres temps où on était peut-être moins en train de regarder... Je disais d'autres gouvernements ont cumulé. Si vous mettez tous les gouvernements qui ont utilisé, oui, bon, d'accord, ok, ne chipotons pas.
Une vingtaine
des dizaines
de
fois, c'est mon côté marseillais. Ok.
Céline Rouden, du service politique de la Croix.
Est-ce que ces règles du jeu, ce 49-3, est-ce que c'est pas complètement dépassé aujourd'hui? Votre collègue Thierry Mandon parlait de frustration démocratique accumulée pour parler du mouvement Nuit Debout. Est-ce qu'aujourd'hui la société a l'impression de ne plus se faire entendre dans la campagne qui se dessine aujourd'hui pour 2017. Personne parle de la réforme des institutions. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps de rénover la façon dont on fait la politique ?
Alors, Moi, je suis convaincue de ça. Pardon, je cherche mes mots, mais pour être d'accord avec vous, en réalité. C'est-à-dire que je pense que, tenez, s'il y avait une très belle chose à faire, qui peut-être redonnerait un peu de souffle à notre démocratie, faudrait peut-être mettre autour de la table, enfermer dans une pièce, des chercheurs. Parce que je crois quand même beaucoup à la recherche.
On en a deux, on peut les enfermer, hein, si vous voulez.
Je pense pas non plus. Enfin, je pense que chacun a une expertise de son quotidien, etc. Bien sûr, sur des sujets qui le concernent directement. Mais je pense qu'il y a des sujets, peut-être assez... qui demande une expertise de plusieurs années. Donc, faire en sorte que des chercheurs se mettent autour d'une table et réfléchissent au fonctionnement de nos institutions et à la façon dont on pourrait les revoir,
la
honnêtement, ce serait,
en parle depuis
ce
des
serait
années.
Utile pour nous tous. Enfin, je veux dire, moi, je prenais par exemple, regardez, je... pour prendre ce qui se passe dans notre propre camp politique, au Parti Socialiste, cette question permanente de est-ce qu'un président sortant est suffisamment légitime pour se représenter d'évidence ou est-ce que parce que le parti politique a adopté le mécanisme des primaires, il faut en reconvoquer une à chaque fois. Bah, peut-être que c'est des choses qui devraient être établies une fois pour toutes, posées. Et donc oui, peut-être qu'il y a des choses à améliorer dans le fonctionnement des institutions dans ce sens.
Benoît Bouscaret. François Hollande voulait que la jeunesse aille mieux dans ce pays. C'était son principal engagement de campagne. Il l'a rappelé tout un tas de fois pendant son quinquennat. Comment est-ce que va la jeunesse politique dans ce pays? Parce qu'on voit bien que les jeunes politiques ont du mal à émerger. Et c'est notamment le cas au Parti Socialiste où les éléphants squattent encore les postes importants et seront encore là en 2017 pour les investitures législatives.
Je laisserai les chercheurs répondre sur l'analyse générale.
Non, mais j'aimerais avoir votre avis aussi.
D'accord. D'accord. Pour ce qui est de notre vécu, moi, j'ai le sentiment que parfois, les procès qu'on fait aux partis politiques sont un peu exagérés. Parce que quand vous regardez l'état de notre pays, honnêtement, et surtout quand vous le comparez à d'autres pays... Enfin, je veux dire, il y a au Brésil un nouveau gouvernement qui vient d'être formé, qui n'est composé que d'hommes et que d'hommes blancs. Enfin, voilà, je veux dire, prenez quelques points de comparaison pour comprendre que malgré tout, on a des formations politiques qui évoluent dans le bon sens, bon gré mal gré. Qu'on a adopté des lois, je suis bien placée pour le savoir, lorsque j'étais ministre des Droits des Femmes, que j'ai fait adopter une loi sur l'égalité femmes-hommes où on double les pénalités sur les partis politiques qui ne respectent pas la parité aux législatives. J'ai vu que ça donnait plein de maux de crâne à plein de formations politiques. Eh bien, c'est tant mieux.
Ils ne respectent pas la jeunesse, les partis politiques.
Et la jeunesse.
Les chiffres montrent qu'il y a à peu près la moitié des militants qui sont partis ces dernières années.
C'est
concerne
mais
les
ça,
Républicains
c'est
et
pour
le
ça
Parti
que
Socialiste.
Je me tournais vers les chercheurs parce que c'est plutôt la question de l'appétence de la jeunesse pour les partis politiques. Donc, est-ce qu'on est
les
suffisamment attractif pour eux
ouais. Les chercheurs, lequel de nos deux chercheurs, Fabien Escalona,
veut s'exprimer. En fait, le problème pour les grands partis, c'est que leur structure aussi soit adaptée éventuellement à des nouveaux militants. C'est-à-dire, si on parle du PS, effectivement, le grand échec, c'est de ne pas avoir pu garder les fameux, ce qu'on appelait les adhérents à 20 euros qui est arrivé au moment de la primaire interne de 2006. À l'époque. Et en fait, c'est tout l'enjeu. En fait, quand on accueille des nouveaux militants, c'est ce qui se passe en ce moment dans le Labour. Par exemple, vous avez eu un afflux de militants. Et tout l'enjeu de ceux qui dirigent le parti, c'est de les garder. Du coup, ils créent un mouvement qui s'appelle Momentum pour essayer de changer un peu ça. Mais tout à l'heure, la ministre prenait l'exemple des primaires. Alors effectivement, le 49-3, c'est un outil constitutionnel. Encore heureux, on a envie de dire. Mais pour le coup, la primaire, c'est dans les statuts du Parti Socialiste. Donc s'il faut respecter les règles, il faudrait aussi que le parti les respecte. Et juste un tout petit dernier point, peut-être pour être un peu constructif. Moi, effectivement, je trouve ce 49-3, effectivement, c'est un outil qu'on peut contester, qui est peut-être un peu archaïque. Mais alors, du coup, il faudrait aussi des mécanismes un peu plus intelligents, comme c'est le cas en Allemagne. C'est-à-dire qu'une loi ne peut pas passer si elle n'a pas de majorité. Par contre, si jamais les gens veulent renverser le gouvernement, il faut qu'ils aient une majorité alternative à proposer.
Najat Vallaud-Belkacem, les primaires, vous allez les faire ou pas au Parti Socialiste?
Je crois que...
Vous êtes obligé, me dit-on.
Désolé.
Non mais, enfin... Bon,
Vous êtes obligé ou pas?
Non mais moi, mon sentiment sur la chose, je crois que vous le connaissez, c'est qu'un président sortant est évidemment légitime à se représenter.
Si vous avez des statuts au Parti Socialiste qui obligent à faire des primaires.
Non mais en fait, en effet, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les choses ne sont pas suffisamment précises. Je pense que par exemple, regardez...
Fabien Escalona,
le fait qu'on soit aujourd'hui dans un système de quinquennat, pas plus. Vous savez, on ne peut pas cumuler plus de quinquennat dans le temps. À la limite, ça pourrait rendre logique le fait que pour candidater au premier quinquennat au sein de notre parti, il y a un besoin de primaire, mais que pour candidater au deuxième, continuité oblige, on soit tout simplement sur la légitimité du président sortant. C'est mon avis. Mais maintenant, ce qui va se passer, je crois que ça a été dit au sein du parti, c'est-à-dire que si c'est une vraie primaire ouverte à la gauche et non pas trois ou quatre primaires distinctes pour mieux faire perdre la gauche, pourquoi pas ? Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est compliqué comme exercice.
Une dernière intervention, Julien Longhi, vous êtes maître de conférence en sciences du langage à l'université de Cergy-Pontoise.
Oui, alors justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu les mots qui permettent de se saisir du débat et la manière dont on perçoit ça, puisqu'en fait, la perception du champ politique est quand même très, très liée aux mots qu'on a pour catégoriser. Et j'ai l'impression qu'un des problèmes vraiment fondamentaux, mais dont on ne se sortira peut-être jamais, c'est notamment les termes droite et gauche, par exemple, qui fait qu'on a une espèce de vision latérale de la politique, une espèce de segment avec deux bouts, et on s'évertue à décrire et à penser le débat politique sur cette ligne, et donc on a droitisation, gauchisation, extrême droite, etc. Et on n'arrive pas, et tout à l'heure on parlait de horizontal et vertical, il me semble que ce serait vraiment important d'avoir une sorte de curseur à plusieurs, voilà, avec des qualifiants, c'est-à-dire qu'on peut être progressiste, conservateur, voire réactionnaire, libéral, etc. Et qu'on a des traits comme ça qui font qu'on ne va pas trouver incohérent que le FN ait tel ou tel aspect dans son programme, parce que ça fait partie d'un certain nombre de traits, de même que l'EPS, on a les frondeurs qui sont avec telle catégorie, enfin, tel qualifiant, qui vont être différents de ceux qui ne sont pas frondeurs, par exemple. Et ça, ça aiderait beaucoup les gens, je pense. En tout cas, ça renouvellerait le débat, de pouvoir sortir un peu de cette espèce de latéralité qui est très, très cloisonnante.
Votre avis à ce sujet, Najat Vallaud-Belkacem ?
Oui, je trouve ça assez pertinent, parce que je pense en effet que cette catégorisation droite-gauche, parfois, elle nous fait commettre des injustices. Honnêtement, il arrive... Et je ne me force pas en disant cela. Il arrive de trouver parfois des gens à droite qui sont progressistes.
Qui ? Donnez-nous des noms.
Je plaisante. C'était une blague, hein, je le dis, pour pas que ça tourne sur les réseaux sociaux. C'était une plaisanterie. Non, mais donc, c'est sûr que...
Si c'est une plaisanterie, ça tournera peut-être sur les réseaux sociaux.
Hein. C'est sûr que si on avait, en effet, peut-être des catégories plus souples, permettant de mieux... Bah, je vais vous dire, moi, il m'est arrivé, notamment dans mes fonctions de ministre des Droits des Femmes, c'est moins vrai sur l'éducation, parce que c'est tellement idéologisé, c'en est fatigant, mais sur ministère des Droits des Femmes, il m'est arrivé de pouvoir aller très loin... Avec des élus de droite qui étaient convaincus des mêmes choses, qui n'avaient peut-être pas les mêmes mots pour le dire, mais on a pu vraiment faire progresser les législations grâce à eux aussi.
Le mot de lettre de conclusion par Céline Rouden du service politique de La Croix.
Est-ce que effectivement vous avez, notre sondage montre qu'il y a besoin de plus de référendums, plus d'écoute des citoyens. Est-ce que c'est sur ces pistes-là qu'il faut réfléchir pour la prochaine présidentielle?
Moi, je pense qu'il faut en effet mieux faire participer les citoyens à la décision publique. Mais pour ce faire, vraiment, il faut mieux les éclairer sur la vérité des décisions publiques, des contraintes, etc. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous disais que la situation actuelle est un entre-deux particulièrement insatisfaisant. C'est-à-dire qu'on voudrait plus de participation, mais on voit bien que les citoyens sont vraiment pas informés. En plus, le pire, c'est qu'ils ont le sentiment d'être informés. D'où les pétitions parfois caricaturales, etc. Enfin, reprenons le contenu des pétitions pour se rendre compte qu'il arrive que dans ces textes-là, c'est sur la base d'informations erronées que les gens s'émeuvent, protestent, contestent, etc. Donc il faut qu'on, si on doit repenser notre système, il faut qu'il y ait d'abord à la base la réponse à comment est-ce que les gens ont vraiment toutes les cartes en main pour pouvoir participer à la décision publique. Et alors, oui, je suis persuadée que ça ne ferait qu'enrichir la décision publique.